Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui, comme les deux semaines précédentes, est Gustave Massial, qui est président du CRID. Alors, ça fait deux émissions déjà que Gustave Massia nous parle de la croissance. Il en a profité pour nous remettre en perspective un petit peu l'ensemble de l'évolution économique. Mais cette fois-ci, j'avais enfin réussi à placer une question, parce que si vous vous souvenez, Gustave Massia avait la fâcheuse tendance, si on peut dire, de parler. Et moi, qui d'ordinaire ne réussis pas, ne pose pas de questions, là, je réussissais même pas à en placer une. Alors là, j'ai quand même réussi à lui demander, mon interrogation concernant la croissance et le lien qu'il pouvait avoir avec le chômage. Je me disais qu'à chaque fois que je lisais les journaux, je voyais qu'on faisait le lien entre les deux, qu'on attendait une croissance plus importante pour amener plus d'emplois. Et je me demandais en même temps si ça ne pouvait pas avoir un effet pervers, dans le sens où ceux qui pouvaient désirer consommer moins parce qu'ils voyaient le gaspillage et l'inanité de cette consommation. Donc je me demandais si ces personnes-ci ne pouvaient pas avoir quelques scrupules moraux finalement à faire décroître leur consommation, parce qu'ils se disaient que à ce moment-là, les personnes qui normalement auraient dû travailler n'auraient plus assez de possibilités de le faire. Voilà ce qu'était mon interrogation, et donc voici sa réponse.
En fait, disons, il y a quand même une double question. Et donc il faut voir, parce que il y a l'idée que, en tout cas, la croissance, actuellement l'emploi est déterminé par la croissance. Bon, et puis il y a l'idée, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc ce sont deux choses différentes. Oui. Pourquoi? Parce que les gens savent qu'on vit dans un système actuellement. Dans ce système, il y a une corrélation extrêmement forte entre l'emploi et la croissance. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Les gens le savent très bien. Et dans ce système, à la limite, si l'objectif c'est l'emploi, salarié, emploi ça veut dire emploi salarié avec un revenu attaché à l'emploi salarié et des droits liés au statut salarial, notamment accès à la protection sociale, l'éducation, etc. Pour l'instant, tel que fonctionne le système, c'est comme ça. C'est-à-dire, tel que fonctionne le système, s'interroger sur la nature de la consommation, c'est pas du tout inintéressant, mais ça n'a pas de conséquences directes. Donc, si on tombe sur des économistes intelligents, ils vous diront, mais bien sûr, il vaut mieux faire des choses utiles que des choses inutiles. Mais c'est pas ça qui va déterminer l'emploi. Parce que quand on étudie une corrélation, c'est-à-dire un rapport entre deux grandeurs, les deux grandeurs qu'on a, c'est la croissance d'un côté et l'emploi de l'autre, et on sait qu'il y a une corrélation très forte, c'est-à-dire que quand la croissance augmente, l'emploi a tendance à augmenter, et quand la croissance diminue, l'emploi a tendance à baisser. C'est vrai. Donc ce que disent les gens, c'est qu'ils disent le système actuel fonctionnant comme il fonctionne, c'est vrai. C'est vrai. Alors maintenant, d'abord c'est vrai dans certaines limites, puisque d'abord parce qu'il faudrait être capable d'avoir de la croissance tout le temps, ce qui n'est pas le cas, comme on l'a vu, et pour des raisons. Donc en fait, c'est pas un système. Ça ne suffit pas à définir le système. Bon, et puis d'autre part, ce n'est vrai que sur une partie de la planète et pendant un temps donné et avec tout ce qu'on a dit. Donc, mais en fait, c'est comme ça, c'est ça. Alors, et pour les dirigeants, disons, ceux qui sont responsables, entre guillemets, qui savent que la croissance est corrélée à l'emploi, n'est pas la cause de l'emploi, mais est corrélée à l'emploi. Elle est la cause de l'emploi dans un certain système donné. Et bien, donc, ils en tirent la conséquence que il faut de la croissance, à tout prix. Parce que c'est la seule manière, par exemple. Plus on est sensible à l'emploi, plus il faut de la croissance. Ce qui fait que la gauche est plus sensible à la croissance que la droite. Parce que la droite, à la limite, les entrepreneurs disent qu'ils sont pour la croissance parce que ça permet l'emploi. Mais en fait, c'est pas vrai. D'ailleurs, parce que quand il y a de la croissance et qu'ils font plus de profits, ils n'embauchent pas plus. Au contraire, ils continuent à licencier. Donc eux, ils veulent la croissance pour des profits. C'est la gauche qui, en général, parce qu'elle pense qu'elle ne peut pas changer le système, ou quand elle pense que, en tout cas, c'est comme ça, voilà, faut être réaliste, c'est le principe de la dictature de la réalité et de l'urgence, disent, on peut pas faire. En tout cas, si on veut résoudre cette question de l'emploi, il faut qu'on accepte la croissance. Et comme aujourd'hui, dans une économie mondialisée, néolibérale, la croissance, c'est La croissance, c'est l'ouverture aux exportations, c'est les exportations qui tirent la croissance, et c'est le marché mondial qui tire la croissance. Ils sont pour la croissance du marché mondial et pour la croissance des exportations. Et c'est quelque chose de très fort. Et donc, on ne peut pas dire, parce qu'on ne peut pas répondre à ça, il n'y a qu'à. Bon, je prends un exemple assez fort, par exemple. La première déclaration de Lula, arrivant comme président du Brésil, c'est de dire, pour rembourser notre dette et pour éliminer la pauvreté, il nous faut augmenter les exportations de 10%. Voilà. Ce qui fait d'ailleurs qu'il est applaudi à Davos. Mais il a raison. Je veux dire, bon, il a raison. C'est comme ça. Bon. Alors évidemment, s'il ne fait que ça, c'est une conversion au libéralisme. Mais s'il utilise ce temps-là pour faire autre chose, c'est une transition. Donc c'est ça. Hein. Donc la question c'est, que dans le court terme, dans une situation donnée, c'est ce qu'on voit, voilà. Et donc ça conduit à la contrainte dite du réalisme, du principe de réalité. Ça. Donc à ce moment-là, quand quelqu'un dit « Ah oui, mais je pourrais peut-être consommer moins de voitures », bon oui, pourquoi pas, mais on va lui dire « Oui, mais ça dépend ce que tu vas faire de l'argent que tu as économisé à la limite ». Si c'est pour le mettre de côté et que ça ne sert à rien, évidemment, tu es contre l'emploi. La thésaurisation est contre l'emploi. Si par contre tu l'utilises pour acheter autre chose, à ce moment-là, c'est neutre. Donc le système n'interdit, enfin le système théoriquement, n'interdit pas de lutter contre le gaspillage, contre certaines formes de surconsommation, etc. Il ne dit pas, il faut consommer 3 portables plutôt que 2. Il dit non, il faut consommer. C'est ça qui est important. Donc, trouvons d'autres choses. Mais évidemment, comme c'est plus rentable de vendre des portables, parce qu'on s'adresse aux gens qui ont déjà beaucoup d'argent et dont les besoins sont en partie couverts, ça entraîne ça. Ça entraîne ce gaspillage comme conséquence.
Tissot et les hommes, donc en compagnie de Barbara, mais aussi de Gus Massia, le président du CRID, qui nous parle de la croissance. Alors, Gus Massia m'avait dit que la question que j'avais enfin réussi à poser était double. Du coup, on va aborder maintenant le deuxième point. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ?
Alors maintenant, on peut aborder qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement et pourquoi il faut faire autrement. Parce que finalement, ce que j'ai dit tout à l'heure sur les limites, c'est quelque chose de plus en plus réel. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est une des explications de la crise du capitalisme aujourd'hui. Bon. Alors, il faut revenir sur cette crise et sur la nature de la croissance. Bon. Pour expliquer comment est-ce qu'on pourrait essayer de construire d'autres moyens, d'autres méthodes. Alors, il ne peut pas y avoir une croissance infinie, comme on l'a dit. Donc, en tout état de cause, se pose la nécessité de voir comment ça peut se faire autrement. D'autre part, la croissance que nous connaissons actuellement, qui rencontre ses limites, c'est la croissance qui, le modèle de croissance, disons, c'est un peu la croissance que l'on voit se développer à partir des années 80, 75, 77, on peut discuter sur la date, disons, entre 75 et 80, qui est effectivement une croissance fondée sur la phase néolibérale de la mondialisation. Qu'est-ce que c'est que cette phase néolibérale ? C'est justement la rupture du compromis social de la période précédente. C'est la rupture du keynésianisme, du modèle keynésien, c'est-à-dire l'idée que l'État doit intervenir pour la régulation et pour garantir le statut salarial. C'est la rupture de la décolonisation, disons. C'est-à-dire il faut intervenir directement, d'ailleurs c'est évidemment après le choc pétrolier, les deux chocs pétroliers de 77-78 que l'on voit cette... qui consiste à dire, bon, maintenant, il faut qu'on intervienne directement, y compris en recolonisant, s'il le faut, pour maîtriser complètement les prix des matières premières. Donc, on voit bien ce qui se passe avec la guerre pétrolière actuelle. Et c'est aussi... Et c'est quelque chose qui devient à peu près évident à partir du moment où on a éliminé l'alternative soviétique, le soviétisme, disons. Bon, ce nouveau modèle de croissance repose sur cette idée justement que il faut développer le marché mondial pour développer la croissance et que donc il faut obliger chacune des sociétés à s'ajuster au marché mondial. Et pour ça, on va mettre en place des politiques de libéralisation. Ces politiques de libéralisation reposent sur l'idée qu'il faut déconstruire l'État keynésien, il faut déconstruire l'État la régulation publique pour permettre une régulation par le marché mondial plus, plus forte. Et comment on va faire ça? Eh bien, par la libéralisation, c'est-à-dire laisser les entreprises multinationales considérées comme les opérateurs de progrès, porteuses de la croissance, d'une part investir où elles veulent, deuxièmement retirer leurs bénéfices comme ils veulent, pour les reporter où ils veulent, ça c'est justement l'idée du marché, comme, troisièmement privatiser quand il y a des entreprises publiques, parce qu'elles pourraient ne pas jouer le même rôle que les entreprises privées, et parce qu'en tout cas ça limite les profits du privé. Quatrièmement, limiter les dépenses de l'État considérées comme improductives, la santé, etc., l'éducation, etc., pour alléger le salaire, en quelque sorte. Hein, de toute façon. Donc, on attaque, en quelque sorte, le salaire par le chômage d'un côté, et par la réduction de la consommation collective de l'autre. Et donc, dans le partage de la valeur ajoutée, quand on diminue la part des salaires, ça permet d'augmenter la part des profits. Voilà, c'est assez simple, en fait. Ça paraît même caricatural, mais malheureusement, c'est comme ça. Et donc, on va faire ce qu'on appelle d'ailleurs l'ajustement structurel, c'est-à-dire que pays par pays, on va obliger les pays à s'ajuster au marché mondial pour augmenter le marché mondial et pour permettre à ceux qui jouent un rôle d'opérateur principal dans le marché mondial d'avoir des profits supérieurs. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de 1995? C'est que, après quand même 15 ans de fonctionnement de ce système, 20 ans, on se rend compte de ses conséquences. D'abord, premièrement, il y a eu de la croissance. Il y a une croissance dingue. Bon. Il y a une croissance mondiale. Quand on regarde les chiffres, justement, et il y a une croissance dans les pays du Nord, très très importante. Quand on regarde par exemple la France, en 30 ans, elle est 2,5 à 3 fois plus riche. Donc la crise que nous connaissons, le chômage, etc., c'est pas parce qu'on est moins riche, c'est parce qu'on est plus riche. Donc il y a un problème là. Bon. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a croissance, bon, donc les choses devraient aller mieux, or les choses ne vont pas mieux. Et donc on se rend compte que cette croissance-là, elle a pour conséquence, non pas la réduction des inégalités, mais l'accroissement des inégalités. Inégalités sociales, entre les couches sociales, notamment le nord et le sud, et notamment entre et dans chaque pays, donc dans chaque pays au niveau mondial, inégalité géopolitique en matière de domination, comme on peut le voir avec les guerres, etc., inégalité écologique, voilà, et inégalité politique, c'est-à-dire le fait que l'accès aux droits n'est pas le même pour tous. Donc, la question des migrants, la question des la question de la sécurité, de l'insécurité, puisque on ne parle pas d'insécurité sociale, mais on parle d'insécurité. Bon, donc effectivement, il y a une, avec une stigmatisation des pauvres. Alors, évidemment, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de problème d'insécurité, mais quand même, la stigmatisation des pauvres et des faibles n'apparaît pas comme la réponse réelle à cette insécurité. Bon. Donc cette croissance, qui aurait dû faire en sorte que tout aille mieux, elle se traduit au contraire par ces quatre grandes inégalités. Donc, à partir de 1995, cette prise de conscience de la nature de la croissance, de la nature du modèle dans lequel nous vivons, conduit effectivement à la naissance du mouvement intermondialisation qui monte parallèlement à la crise interne du système que l'on peut lire à travers des crises financières, qui se développent les unes après les autres, disons la Corée, le Mexique, l'Argentine, enfin il y en a tout le temps, quoi, disons. Bon, donc ça montre bien que la croissance n'a pas non plus permis de résoudre les questions internes au système, donc le système est en crise, et d'autre part que il ne répond pas à la question des inégalités, de la pauvreté, etc.
Des souhaits des hommes, et on reste en compagnie de Gustave Massia, qui dans sa dernière intervention nous a montré que le système a mené énormément de problèmes, d'inégalités notamment. Alors la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'il faut encore de la croissance?
Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Certains continuent à dire oui, mais il faut encore plus de croissance, parce que justement, on est dans un mauvais moment, mais après ça ira mieux. C'est ce que nous disent les patrons tout le temps. Les patrons, ils sont encore plus cyniques parce qu'ils disent pas il faut plus de croissance pour ça aille, ils disent il faut plus de profit pour que ça aille mieux. On leur dit bon, mais peut-être qu'on pourrait licencier moins. Ils disent ah ben non, parce que si on licencie moins, on n'aura plus de profit, donc on ne pourra pas faire face à la concurrence. Bon, et si vous avez plus de profit, qu'est-ce que vous allez faire? Ben plus tard, on embauchera. Alors, c'est toujours plus tard, on embauchera. Pour l'instant, on licencie, plus tard, on embauchera. Donc finalement, la croissance ne résout rien, surtout avec une accentuation de la concurrence telle qu'on la connaît. Commence dans le mouvement une réflexion sur qu'est-ce que l'on peut proposer par rapport à la croissance. Alors, certains courants disent il faut appeler à la décroissance. Par exemple, Serge Latouche, toute une série d'autres économistes disent bon, mais écoutez, soyons clairs, osons dire que, ben, puisque c'est comme ça, on est pour la décroissance. Et comme ça, ça obligera à mon. Montrer, en tout cas, ce n'est pas supportable, cette croissance n'est pas supportable, donc il faut être clairement pour la dépense. Bon, ce qui évidemment choque beaucoup d'autres qui disent oui, mais enfin, il y a quand même des besoins inassouvis énormes quand on regarde l'inégalité d'accès à l'eau, à l'énergie, l'accès aux soins de base, l'accès à l'éducation. Aller préconiser la décroissance aujourd'hui, c'est quand même une provoque. D'ailleurs, c'est une provoque, hein. Toutes les provoques sont pas inintéressantes, donc c'est une provoque. Bon, mais en fait, c'est une provoque qui n'est pas une proposition alternative, mais qui peut jouer un rôle idéologique. Bon, d'autres. Alors, dans le mouvement que l'on voit se développer à travers les forums sociaux, forums locaux, forums européens, forums sociaux, dans des grandes régions, forums sociales mondiales, Porto Alegre, bon, il y a quelques idées qui commencent à émerger. Bon, il y en a deux principales qui sont. Sur lequel je voudrais mettre l'accent, qui interroge directement la nature de la croissance, mais qui ne pose pas la question croissance ou pas croissance, qui disent, bon, ne soyons pas hypnotisés par la question de la croissance. Bon, effectivement, s'il faut plus de croissance pour qu'il y ait plus d'emplois, ben, qu'il y ait plus de croissance à la limite, mais interrogeons-nous sur quelle croissance, de quelle croissance il s'agit, et... Bon. Alors, quelles sont les idées? Bon, la première, c'est de dire... Alors, il y a une idée générale, c'est de dire qu'il faut un développement durable. Bon. Qui est une bonne idée, d'ailleurs, puisque c'est une idée, en plus, qui a été lancée par le mouvement, il faut pas oublier, mais qui est récupérée très largement. Bon, enfin, quand même. Donc, sur cette idée du développement durable, c'est l'idée des trois piliers, c'est-à-dire qu'il faut une croissance, enfin, d'accord pour la croissance, mais la croissance, elle doit... être économiquement efficace, le développement doit être économiquement efficace, donc même s'il y a une croissance, il faut réfléchir à quel type de croissance, etc. Il doit être socialement équitable et il doit être écologiquement soutenable. Donc, ça montre bien quand même qu'il y a un débat de remise en cause de la croissance, de fait, en tout cas. C'est-à-dire que l'idée qui était dominante auparavant, ne nous interrogeons pas sur la croissance, c'est le moteur, c'est une boîte noire. Il faut qu'il y ait croissance pour qu'on puisse résoudre nos problèmes. Actuellement, ne résiste plus à l'analyse et il y a de plus en plus de gens qui s'en éloignent. Alors non, il faut interpeller la croissance, interroger la croissance. Et donc, les débats sur le développement durable, c'est une des manières de le faire. Bon. Pas inintéressante, mais effectivement très récupérable comme on a pu. Mais enfin, moi, par rapport à la récupération, je n'ai pas une position, je n'ai pas peur de la récupération pour ma part. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je dis souvent aux ONG, le premier risque, c'est d'être récupéré, parce qu'on peut vous faire le contrat ce que vous voulez, mais le deuxième risque, c'est de ne pas être récupéré, parce que ce que vous dites n'intéresse personne. Donc, qu'on essaye de nous récupérer, ça ne m'inquiète pas. Le problème, c'est comment nous sommes capables de résister en allant plus loin. Donc, comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Bon, on peut poser la question, effectivement, de, premièrement, la limite écologique interpelle la nature de la croissance. Ça, c'est le problème. Deuxièmement, les modes de production, les formes de la production interpellent l'entreprise, avec la question de la responsabilité sociale des entreprises, de la démocratie dans l'entreprise. Donc, il est urgent de s'interroger à la nature de la croissance, à la nature de la production, pas la nature de la croissance, la nature de la production, plus fondamentalement. Croissance ou pas, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on produit et comment on produit. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, élément, à mon avis, tout à fait déterminant, c'est que quand on analyse un peu en profondeur la croissance actuelle, on se rend compte que cette croissance que les inégalités, pardon, pas la, les inégalités liées à la croissance, disons, le fait que la croissance n'arrive pas à résoudre la question des inégalités. On se rend compte de quelque chose de fondamental, c'est que les inégalités sont fondées non pas sur l'exclusion de la croissance, mais sur les discriminations. Il n'y a pas d'inégalité sans discrimination. Ça peut être discrimination entre le genre, discrimination par rapport aux migrants, discrimination par rapport aux ethnies. Enfin bon, en tout cas, quand on regarde bien les inégalités, on n'est jamais pauvre par hasard. Même si globalement, il peut y avoir une explication. En tout cas, la question des inégalités est une question réellement liée aux discriminations. Donc, nous, nous disons, la lutte, le développement économique passe par la lutte contre les discriminations. Donc, c'est pas la croissance qui est l'objectif principal. La croissance, c'est la lutte contre les discriminations qui doit permettre de réduire les inégalités et de construire une autre croissance. Voilà. Et de construire un autre modèle de développement. Bon. Troisièmement, donc, il y a cette question de la lutte contre les discriminations qui doit permettre de réfléchir un peu autrement à la nature de la société, à la nature de la politique. Et donc, par rapport à tout ça, commence à émerger une idée de fonctionnement alternatif de l'économie, consistant à dire pensons que la régulation de l'économie n'est pas la régulation par les marchés. En toute cette cause, il faut de la régulation publique, évidemment. Mais pourquoi? Parce que l'objectif de l'économie n'est pas la croissance et la consommation. L'objectif des sociétés doit être l'égal accès aux droits. L'égalité d'accès aux droits. Ça change le curseur et ça change la manière de voir. C'est-à-dire, on dit, bon, si vous voulez avoir une meilleure économie, organisez-vous pour que la société et que l'économie permet de répondre aux droits et d'avoir l'égalité d'accès aux droits. Ça, c'est alternatif par rapport au marché. Parce que, justement, le marché ne se pose pas cette question-là. C'est une question qui, pour lui, est hors de... Et donc, évidemment, ça implique la question de la redistribution. Ça implique la question des formes de redistribution, et notamment, ça implique la question de la redistribution mondiale, puisque justement l'économie est mondiale aujourd'hui, et donc la redistribution ne peut être que mondiale.
Et bien voilà, c'était donc l'émission Des Sous et des Hommes avec Gustave Massia. La semaine prochaine, nous rencontrerons Damien Millet qui milite au CADTM, le Comité pour l'abolition de la dette du tiers-monde. Il viendra nous expliquer ce que c'est la dette du tiers-monde dans toutes ses mesures. Et il a d'ailleurs écrit un livre en collaboration avec Eric Toussaint qui s'appelle 50 questions, 50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale. C'est aux éditions Sileps et c'est absolument remarquable. À la semaine prochaine.